Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
La société civile de Mamové au Nord Kivu sollicite l'intensification de la traque des EDF par les FARDC et l'armée ougandaise. Requête exprimée par après les attaques des EDF dimanche et hier dans le territoire de Beni. Entre-temps, des jeunes en colère après ces attaques ont incendié trois gros camions qui acheminaient des vivres pour les déplacer à Oicha. Province du Lualaba, les activités commerciales interdites certains jours de la semaine à Sandoa au profit des travaux champêtres. Décision de l'autorité territoriale jugée salutaire pour cette entité en proie à l'insécurité alimentaire, mais le Forum national de la jeunesse de Sandoa s'y oppose. Madame, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, au lendemain des attaques des EDF du dimanche qui ont fait 3 morts et d'hier qui a coûté la vie à 26 personnes dans le territoire de Beni, la société civile de Mamové appelle à l'intensification des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises contre les EDF. Selon cette structure citoyenne, ces rebelles se déplacent actuellement de la province de l'Ituri vers le territoire de Beni où ils mènent des attaques contre des civils. Le président de la société civile de Mamové demande également l'installation des positions militaires dans plusieurs localités de la région. Kinos Katou explique la situation au micro de Martial Papi Mukeba.
Ces ennemis quittent la province de l'Ituri dans la chefferie de Walesevukutu pour venir imposer leur loi dans la province du Nord Kivu. Nous demandons à l'opération conjointe FARDC et PDF qui sont dans l'Ituri d'intensifier les opérations qui sont en cours et de mettre des positions militaires à Kalalangwe, Makakwa, Kasoko, Tapis Rouge et Mambumembume. Et d'installer une grande base de militaires à Mamové, Mangazi, Ebeu, Manyama.
Toujours en rapport avec l'attaque de la nuit de lundi à hier mardi de la localité d'Oicha par les EDF, 3 gros camions affrétés par une agence humanitaire de l'ONU qui transportait des vivres destinés aux déplacés ont été incendiés par des jeunes en colère ce même mardi à Oicha. Ils protestaient ainsi contre cette attaque qui a fait 26 morts. 2 jeeps d'une ONG locale ont également été pris à partie par les manifestants. L'un des conducteurs des camions incendiés qui a requis l'anonymat dit ne pas comprendre comment on peut incendier des vivres destinés aux déplacés. Il est au micro de Radio Kapi.
Tout a commencé aux environs de 7h50. Nous étions auprès de nos véhicules en attente du programme de déchargement. Les premiers à nous surprendre étaient des motards. Ils sont arrivés en nous disant qu'ils n'ont plus besoin de le voir encore ici. Nous avions voulu démarrer les véhicules et partir. Mais comme il y avait une grande foule, il n'y avait pas moyen de forcer le passage. Nous avons trouvé abri un peu à l'écart auprès des autorités. C'est juste quand nous nous sommes déplacés qu'ils ont commencé par incendier les tentes où on enregistrait les déplacés et c'est après qu'ils ont retourné contre les véhicules. On ne sait pas comprendre si c'est l'ennemi qui a infiltré les gens jusqu'à arriver à incendier les véhicules car une personne normale ne peut pas incendier les engins qui ont des vivres pour assister les déplacés. Dans ces véhicules, il y avait des farines de maïs, les haricots et l'huile destinée aux déplacés. Nous avons des chauffeurs blessés par ces jeunes manifestants. Nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes partis à la police pour demander secours, mais ils sont arrivés en retard.
En politique, Christian Tabalinzi, président national du parti Engagement Citoyen pour la République, a déposé hier mardi une plainte contre l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, au bureau du procureur près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il l'accuse d'effets diffamatoires, faux bruit, outrage au chef de l'État et violation du secret professionnel. Dans l'actualité aussi, signature hier à Kinshasa du contrat social du réseau Pona Congo par Martin Fayulu, il s'agit du résultat de la campagne dénommée Congo Tolingi, entendez le Congo que nous voulons, campagne menée par cette structure citoyenne sur toute l'étendue du pays à travers des consultations populaires pour recueillir les besoins et priorités des Congolais. Ainsi, le réseau Pona Congo fait signer les acteurs politiques ce document qui contient également des engagements qu'ils sont appelés à respecter une fois arrivés dans les institutions du pays, afin de répondre aux attentes réelles de la population. Emmanuel Mabunguta, membre de Pona Congo, explique au micro de Grâce Amzati.
Les politiques ont des engagements dans plusieurs secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur du leadership responsable. Nous ne voulons plus de ces responsables, encore de ces autorités, qu'ils ne maîtrisent pas les besoins réels de la population. Nous ne voulons plus que ça soit seulement parce que vous offrez un pont, parce que vous offrez de pagne, mais nous voulons, au-delà de promesses, au-delà de dons que vous nous faites, que vous puissiez être capable, vous, en étant à la manette, rendre responsable l'État. Le deuxième axe, c'est par exemple le secteur de la sécurité. Nous connaissons tous comment les groupes armés sévissent nos populations. Le troisième axe, c'est la situation sociale. Si vous lisez même dans ce contrat social, il est repris que 89% de Congolais pensent que la situation sociale du pays n'est même pas dans le calendrier de nos dirigeants. Parce que regardez, ils nous disent toujours nous allons réduire le temps de vie des institutions, ils nous disent toujours que nous allons arranger la situation du chômage des jeunes, mais ce qui n'est pas le cas. Mais au-delà de tout ça, il y a la CENI, parce que tout part des élections. Nous pensons que les élections doivent être un moment où la cohésion nationale monte au détriment du tribalisme, du népotisme, du clientélisme, qu'on laisse place à la nation pour que demain, nous puissions avoir des perspectives communes.
Tout en saluant cette initiative des jeunes, Martin Fayulu appelle tous les autres candidats présidents de la République, y compris la CENI, à signer également ce contrat social pour le bonheur du peuple, dit-il, rappelant que ce document est déjà signé par certaines formations politiques et certains candidats à la présidentielle, notamment Constant Mutamba et Floribert Anzuluni. Direction la province de Lualaba, je vous le disais en titre, le Forum national de la jeunesse dans le territoire de Sandoa s'insurge contre la décision de l'autorité territoriale d'interdire la tenue des activités commerciales certains jours de la semaine au profit des travaux champêtres. Pour le président de cette structure, ces travaux ne doivent pas être obligatoires au point de paralyser les activités génératrices de revenus qui sont d'une grande importance pour une certaine catégorie de personnes. Pour sa part, l'administrateur du territoire incriminé indique que les mesures prises sont salutaires pour son entité en proie à l'insécurité alimentaire. Explication, Jean Ganduka Bongo.
Pour le président du Forum national de la jeunesse dans les territoires de Sandoa, contraindre tout le monde à aller au champ tout en sacrifiant les autres travaux n'est pas correct, encore que les intrants agricoles ne sont pas mis à leur disposition. Pour l'administrateur du territoire de Sandoa incriminé, son entité était un grand grenier, mais curieusement, à l'heure actuelle, elle fait face à l'insécurité alimentaire. Les gens ne cultivent plus comme par le passé. Pourtant, le sol de Sandoa est très riche et n'a pas besoin de produits chimiques. Pour Jean-Augustin Tijika, le conseil local de sécurité a décidé que chaque lundi et mardi de la semaine, toutes les activités se déroulent normalement. Par contre, chaque mercredi et samedi de 7h à 10h, toutes les activités restent fermées pour raison des travaux d'assainissement du milieu. Après 10h, chacun retourne à son travail jusqu'à X temps. Par contre, les jeudis et vendredis de la semaine, tout l'avant-midi, les activités sont suspendues et tout le monde doit aller au champ. Seuls les hôpitaux, les écoles et l'administration publique fonctionnent. L'objectif est de permettre au territoire de Sandoa d'accroître sa production agricole afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Notons que le manioc et le maïs constituent les aliments de base pour les habitants de Sandoa. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la ville de Lubumbashi accueille dès ce mercredi le colloque international de l'Association des études africaines d'Afrique, placé sous le thème « Rapatrier l'Afrique », organisé par le Centre ARUP pour la recherche et la formation, en collaboration avec l'Université Nouveaux Horizons. Cette rencontre des scientifiques réunit une cinquantaine de pays de tous les continents. Au cours de ce rendez-vous, il sera aussi question de parler de la problématique de la restitution des œuvres d'art que l'Europe coloniale avait emportées de l'Afrique. C'est comme l'explique ici le père Toussaint Kafarir Mouroula, directeur général du centre ARUP. Il est au micro de Jean Gandou.
La restitution des œuvres d'art, le patrimoine matériel. Mais il y a aussi la restitution du patrimoine immatériel. Dans le patrimoine immatériel, nous voyons surtout les productions des savoirs, n'est-ce pas ? C'est pour ça que les professeurs d'université sont très impliqués. Il y a une délégation qui arrive de Kinshasa, des profs d'université. Il y a les professeurs des universités à Lubumbashi, l'UNULO, l'INH, UPL, l'ISP, tout ce monde-là. Nous sommes là tous ensemble pour ce rendez-vous, en fait, où, en mettant nos têtes ensemble, nos esprits ensemble, nous voulons voir quel genre de savoir nous devons produire pour transformer nos sociétés et nos communautés. Il n'y a pas de développement, en fait, qui ne soit réfléchi en amont. Et il n'y aurait pas de développement sans que cet aspect culturel ne soit souligné de manière consciente. Donc c'est aussi le lieu pour nous d'interpeller certainement nos autorités politiques, à nos dirigeants, pour qu'ils se rendent compte que c'est avec cette communauté d'intellectuels, de savants, d'artistes, que tous ensemble nous devons prendre des décisions qui affectent nos vies et nos futurs.
Autre nouvelle, le ministère de l'économie nationale décide de mettre en œuvre l'opérationnalisation du FOREC, Fonds de régulation économique. Partant de son fondement, ce fonds constitue pour le gouvernement un instrument de prévention économique. Il intervient principalement dans la stabilisation des prix et dans le monitoring de l'approvisionnement régulier du pays en produits de base. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a ouvert hier à Kinshasa un atelier d'élaboration du plan d'action opérationnelle de ce fonds pour la RDC. Explication avec Billy Van Lutumba.
Le FOREC, Fonds de régulation économique, est institué en RDC par un décret depuis mai 2008, mais son fonctionnement, encore moins sa mise en vigueur, ne sont jamais effectifs jusqu'à ce jour. Pourtant, sa principale mission est d'identifier les produits menacés des pénuries ou connaissant une distorsion des prix, déterminer les modalités d'intervention pour juguler la crise et intervenir pour que le produit concerné soit vendu à juste prix. Vital Kamerhe.
Le comité de gestion du FOREC s'emploiera vivement à mettre en œuvre les activités d'être structurées dans le but de stimuler à la fois production locale des denrées en situation de pénurie et de soutenir les producteurs, les fournisseurs ou d'autres opérateurs économiques afin de rétablir des équilibres sur le marché. En d'autres termes, le FOREC devra lutter contre l'influence néfaste des cartels et les oligopoles qui gangrènent notre économie.
Dans son fonctionnement, le FOREC va appuyer la politique d'approvisionnement des distributions établies par le gouvernement en anticipant sur la pénurie principalement pour les produits pétroliers, les céréales, les produits surgelés, le ciment, le sucre, la farine de froment. Les autres sont à déterminer par le gouvernement. L'atelier de deux jours qui s'ouvre ce mardi doit donc aboutir à la mise en place d'une feuille de route de l'opérationnalisation du FOREC, le Fonds de régulation économique.
Et puis, les conclusions d'une étude menée par la Faculté des sciences de l'Université de Kinshasa révèlent que très peu de finalistes du secondaire se sont intéressés aux maths physiques ces 10 dernières années en RDC. Le professeur Fidel Balibouno, enseignant du domaine à l'UNIKIN, affirme que cette déperdition scolaire de 80% est liée à la propension des élèves à s'intéresser aux domaines qu'ils considèrent à tort ou à raison comme faciles à maîtriser au nom de la loi du moindre effort. Il leur conseille de maîtriser les sciences pour booster la technologie, à l'instar de la France et du Japon. Le professeur Fidel Balibouno s'explique au micro de Pascal Massirika.
Il faut absolument prendre une décision pour remettre les sections scientifiques, maths, physique et biochimie qui ont été supprimées à la faveur de sections soit littéraires, soit pédagogiques. Et dans plusieurs provinces où nous sommes en train de remarquer aujourd'hui, si les sections scientifiques ne sont pas favorisées, le problème à l'avenir, c'est que notre technologie sera faible. C'est que nous n'aurons plus d'ingénieurs pour construire nos routes. À qui profite le crime? Où j'ai mené ces enquêtes-là, et j'avais pu remarquer qu'il y avait une déperdition des sections maths, physique et biologique. Il faudra que nous puissions avoir l'œil regardant. Si nous voulons que la République démocratique du Congo soit un pays puissant demain, il faudra remettre sur les rails les sections maths, physique et les sections biologiques. Le Japon aujourd'hui est une puissance grâce aux mathématiques et à la physique.
Et dans notre série de reportages sur la cohabitation entre le parc national des Virunga et la population riveraine, nous abordons dans ce troisième numéro les solutions à cette crise qui dure depuis des décennies. À chaque épisode de conflit, les deux parties se rejettent la responsabilité de violation des limites. La population riveraine revendique la terre de ses ancêtres alors que l'ICCN dit protéger les limites légales du parc. Mais que fait l'ICCN ou a déjà fait pour promouvoir une cohabitation pacifique autour du parc national des Virunga? Et bienvenue Bouende, chargé de communication de l'ICCN au Nord Kivu, répond au micro de Sadiki Aboubakar.
Il y a un mécanisme de contact permanent entre l'ICCN et les communautés riveraines. Et ça se fait à travers les personnes qu'on appelle les conservateurs communautaires. Mais au-delà de ça, je parlais de la démarche de démarcation. Parce que on pense qu'une fois les limites sont très bien identifiées et matérialisées en commission, ça lève les malentendus qui pourraient y avoir entre les communautés riveraines et les parcs. Et donc ça, c'est la plus grande action qu'on est en train de mener. Et actuellement, on a déjà démarqué autour de 130 km. Et c'est la réponse, en tout cas la plus importante, que l'ICCN apporte à cette problématique des limites du parc. C'est important de les rappeler, hein, l'identification des limites, la démarcation, et les faits de manière participative. Quand je dis de manière participative, ça veut dire qu'elle associe la communauté locale, les leaders locaux, les leaders politiques, les représentants de la population, ça peut être la société civile, ça peut être les députés. Et donc tous ensemble, il y a une très grande commission qui est formée pour ce genre d'activité, qui identifie et qui matérialise les limites.
Actualité internationale.
Nous sommes en Mauritanie. Le procureur a requis 20 ans de prison ferme avec confiscation de ses biens contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, poursuivi pour enrichissement illicite, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. L'ancien président mauritanien se serait constitué un patrimoine et un capital de 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.